Éric Dauterre, bonjour. Voici Radio Scénique, l'émission de théâtre sur Aligre FM 93.1. Femme, je vous aime, chantait Julien Clerc dans les années 80, il y a bien longtemps. 1661, c'est encore il y a plus longtemps. Et à cette époque-là, les femmes, on les aimait pas vraiment sur scène en Angleterre. Alors quand il y avait un rôle de femme à interpréter, c'est un homme qui s'y collait. Ce que je vous décris là, c'est le cadre de l'intrigue de Belle de Seine, la pièce actuellement présentée au Nouveau Théâtre des Gémeaux Parisiens. La pièce est signée Jeffrey Hatcher et nous recevons aujourd'hui le metteur en scène et l'un des interprètes de cette comédie historique. Stéphane Cotin et Vincent Eden sont avec nous en studio. Dans Malek, les femmes, elles s'aiment pas vraiment. Il faut dire qu'elles s'aiment vraiment pas, au point de se faire respecter par les hommes. En tout cas, vous le savez, nous sommes en partenariat avec les EAT, les écrivaines et écrivains associés du théâtre, et chaque émission nous permet de mettre en valeur le texte d'une autrice et parfois d'un auteur primé par le comité de lecture de cet organisme de défense. Aujourd'hui, le texte s'appelle donc Balek et son autrice a pour nom Blandine Bonelli. Nous la recevrons dans la deuxième partie de cette sixième édition de Radio Scénique. Pas de chronique architecturale aujourd'hui, retenue par d'autres obligations, Pascal Duterte nous reviendra dans deux émissions. Vous avez eu le programme, on baisse les lumières, vous éteignez vos portables, voici venu Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dauterre, le théâtre sur Aligre FM.
Ambiance d'époque sur le plateau des Gémeaux Parisiens, pas un jabot ne manque, il y a toutes les robes pigeonnantes. Nous sommes en Angleterre en 1661. La troupe sur scène est elle-même sur une estrade, c'est donc de théâtre dans le théâtre dont il s'agit. Sur scène, on interprète Othello et c'est une bien singulière Desdémone que l'on voit. On écoute la bande-annonce de Belle de Seine. Tout de suite.
Je suis une fille. Et voilà.
Majesté, je suis Édouard qui les
entend. Le comédien, oui. Charlie. Ah.
Je jouais Desdémone.
Entendez-le, monsieur Kynaston, c'est un triomphe!
L'attraction, c'est moi.
Reste à prouver.
Il est trop tard!
Et que je t'étouffe, et que je t'étouffe, et que je t'étouffe, voilà.
Mais où sont tes lettres? Où sont tes admiratrices?
Qui ne connaît pas le fameux Kynaston?
Nous aimerions que vous restiez tel que vous êtes.
Meurs pour moi, Desdémone.
Je pense qu'il serait divertissant de voir des femmes sur scène.
J'ai vu une comédienne sur scène.
C'est une plaisanterie. Une femme qui joue une femme, c'est ridicule. Où est l'enjeu? Où est la prouesse?
Attendez, Margaret Hughes, la Margaret Hughes qui a joué avant-hier chez Killigrew, c'était vous?
C'était moi.
J'ai travaillé la moitié de ma vie pour faire ce que je fais.
Moi, je veux être actrice plus que tout au monde. Mais s'il faut lire...
Qui a dit votre professeur? Dans quel cas?
Mais si c'est comme ça que vous traitez les femmes, écoutez-moi bien, monsieur. Les femmes, vous le revaudront.
Que nul homme ne puisse plus jouer une femme sur une scène anglaise.
Je ne veux pas de toi.
Elle a été la première. Et vous aurez été le dernier.
Je ne veux pas de ce que tu es maintenant.
Jouer un homme, Kynaston.
La question n'est pas de jouer un homme. Je peux jouer un homme. Mais où serait l'art?
Et maintenant, qui êtes-vous maintenant?
Je ne sais pas.
Alors, votre réponse?
Je vais avoir besoin d'un pantalon.
Qu'on entend à chaque fois qu'une horreur est sur le point d'être commise. Cela fait des années que les Français le font.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Vincent Eden, bonjour.
Bonjour.
La Desdémone que l'on entend, c'est vous.
C'est moi.
Quant à vous, Stéphane Cotin, bonjour, vous êtes le metteur en scène de Belle de Seine, mais également l'interprète de Buckingham, dont on peut dire qu'il est plutôt proche de Kynaston, parce que la Desdémone, c'est un comédien célèbre qui a réellement existé au XVIIe siècle et qui jouait exclusivement des rôles de femmes.
Tout
mais pourquoi cette étrangeté?
Alors, il faudrait lui demander pourquoi cette étrangeté, mais en tout cas, c'était à l'époque complètement accepté et complètement voulu, d'ailleurs, que seuls les hommes montent sur scène et donc les hommes interprétaient les hommes comme les femmes.
Alors, il se trouve que ce Kynaston, il a une liaison avec Buckingham.
Oui, une liaison secrète, évidemment, puisqu'à l'époque, ce n'était pas si simple, surtout pour Buckingham, qui est un membre éminent de la cour et qui ne peut pas se permettre d'afficher ça au grand public, en tout cas pas totalement. C'est d'ailleurs ce qui va conditionner un peu la fin de leur relation. Et effectivement, ils ont une relation, mais parce que ce Kynaston et ses acteurs hommes qui jouaient des femmes exerçait une véritable fascination, non seulement sur le public, mais sur toute la société londonienne de l'époque. Quand on a travaillé, je disais beaucoup à Vincent que je l'imaginais comme une sorte de David Bowie, c'est-à-dire une espèce de rockstar qui exerçait une fascination non seulement artistique, mais aussi une fascination sensuelle.
Alors, comme cette pièce de Geoffrey Hatcher est une pièce historique, on va remettre dans le contexte. 1661, c'est la date à laquelle se passe l'intrigue de cette pièce qui a été écrite...
Dans les années 2000.
Dans les années 2000. Après 18 ans d'interdiction du très puritain Cromwell, le théâtre est à nouveau autorisé, mais avec une condition, pas de femmes.
Oui, tout à fait. Mais c'était déjà le cas avant. Hein. C'était déjà le cas avant. De toute façon, les femmes ne montaient pas sur scène. Donc, on réouvre les théâtres et à nouveau, on interdit les femmes sur le plateau. Donc, on continue. On reprend comme là où on l'avait laissé. Et c'est là où ça va changer grâce au roi en place.
Alors là où on vous trouve, à l'ouverture du rideau, c'est sur scène. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est du théâtre dans le théâtre. On voit cette troupe avec Kynaston, qui est une espèce de divo. Hein, de diva, parce qu'on a envie de la voir dans les dîners, mais on a envie de la voir pas comme homme, mais déguisée.
Ouais,
alors plus que pas déguisé, incarné en femme.
Oui, parce que c'est là qu'il exerce sa fascination et c'est là, on le comprend aussi à travers ce qu'il nous livre de lui-même, c'est là que lui-même se sent complet, se sent utile et se sent dans son art.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été élevé dans une espèce de ferme à comédien. Ouais. Lui-même le dit, dans une cave.
Dans une cave, ouais.
Ils étaient une petite dizaine et on leur a appris à être des femmes.
Ouais,
à jouer des femmes.
Ouais, on leur a appris surtout à oublier l'homme qui est en eux. Donc il fallait qu'ils se débarrassent de toute ersatz, toute scorie masculine qui pouvait rester dans leur corps.
Alors à l'époque, ce sont de véritables héros, vous l'avez dit.
Des stars.
Mais également des monstres pour les autres.
Il y a
une scène qui est frappante. Ces aristocrates qui veulent absolument la voir, savoir si c'est réellement un homme.
Oui, c'est une curiosité en fait. Et donc on se demande, mais enfin c'est pas possible, ça doit être une femme, c'est un mensonge tout ça. Et c'est un homme qui se fait passer pour un homme qui fait une femme, mais en fait c'est une femme qui fait un homme qui fait une femme. Enfin, on se perd un peu et du coup il y a cette fascination. Et comme la noblesse a tous les droits, mais à un moment donné il y a une scène comme ça où ils ont envie de le mettre à nu en fait, de connaître la vérité.
Alors lui, c'est un homme, il est bien dans son statut d'homme qui en aime un autre, mais c'est aussi un petit tyran parce qu'il est fort de son fait jusqu'à ce que l'irrémédiable se passe.
Ouais, jusqu'à ce que l'irrémédiable... Alors il est fort de son fait aussi parce que... c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, on parlait de ça avec Stéphane pour le jeu, on parlait de la précarité. Il est dans une situation précaire, il est comédien, interprète, il joue sur son physique aussi, ce qu'il dégage, il sait que ça ne durera pas. Et donc dès le début de la pièce, on voit aussi qu'il veut des parts dans ce théâtre, il veut tout de suite s'assurer quelque chose. Et donc sa tyrannie, elle vient aussi de là, c'est-à-dire il joue du peu de pouvoir qu'on lui donne parce qu'il sait que ce pouvoir ne durera pas.
Et d'autant qu'il ne faut pas oublier, on dit 18 ans de fermeture, on le dit souvent un peu vite, il faut se rendre compte de dans quel état de précarité était le tissu, qui était complètement délité d'ailleurs, après 18 ans de fermeture. Ils n'avaient même plus de texte, il fallait tout réinventer. Donc ils sortaient d'une période d'une précarité intense, et donc c'était présent tout le temps. Donc c'est vrai qu'il a besoin de s'accrocher à ce succès qui revient, mais qui a été très absent très très longtemps.
Alors politiquement, il y a le retour du roi qui était en exil aux Pays-Bas, si je ne m'abuse,
oui.
Charles II, qui revient, ça, c'est un roi jouisseur.
Ouais.
Et il a envie de profiter des plaisirs et donc il réouvre les théâtres. Mais il a derrière lui, ou devant lui, ou de toutes parts, une certaine Nell Gwynn qui est sa maîtresse et qui n'est pas pour rien dans sa décision de réouvrir les théâtres et de les réouvrir, allez, on va le dire, aux femmes.
Ouais,
comme
ouais,
comédienne.
Exactement. Alors, il y a toute une intrigue comme ça. C'est là où la pièce est merveilleusement tissée. Il y a toute une intrigue qui fait entrer ces personnages dans cette espèce de rouleau compresseur historique. Et effectivement, Nell Gwynn est une des instigatrices du retour des femmes sur scène. En tout cas, elle appuie beaucoup et même de l'interdiction ensuite des hommes de jouer des femmes.
Parce que, effectivement, répétons-le, quand nous arrivons, Kynaston est au sommet de son art, il est triomphant, mais sa costumière a décidé d'être comédienne elle aussi et de faire fi de cette interdiction.
Oui, il y avait comme ça des interdits qui étaient dépassés. C'est ça qui est délicieux d'ailleurs. Et dans la pièce, on le sent bien. Et elle ne le fait pas, je pense, par malice ou par envie de succès ou quoi.
Je ne sais même pas si elle avait prévu, quoi.
Oui.
C'est-à-dire
qu'elle
est tellement fascinée par ce qu'elle voit tous les jours sur scène en regardant... Parce qu'elle est passionnée par cet homme. Elle est passionnée par l'art de Kynaston. Et tous les jours, elle le regarde et elle a envie, elle aussi, de monter sur scène. Et il se trouve qu'il y a un théâtre qui accepte de faire quelque chose qui dépasse la loi en cours et qui prend le risque une fois. Et elle se retrouve embarquée là-dedans, même un moment, un peu malgré elle, finalement.
Et ça dépasse aussi l'entendement de Kynaston, donc ce comédien spécialisé dans les rôles de femmes. Qu'est-ce qu'il dit en entendant la nouvelle « On aurait vu une femme sur scène
» Comment il réagit ? Une femme qui joue une femme, c'est ridicule. C'est ce qu'il pense. Quel est l'intérêt de faire jouer une femme par une femme ? Pour lui, il y a cet esprit de la composition, cet esprit de la recherche, un vrai voyage à l'intérieur de lui-même, puisque c'est ce qu'on faisait à l'époque. Donc tout d'un coup, ces hommes qui allaient chercher la femme en eux, c'était des êtres incroyables. Mais tout d'un coup, de faire jouer ça par une femme, avec en plus tout ce que ça pouvait avoir d'interdit derrière, c'était un non-sens, une ineptie.
Alors balayons un peu la galerie de ces personnages qui, pour la plupart, ont existé. Hein. Kynaston a existé, il était né en 1640, il est décédé en 1706. Charles II, évidemment,
a existé. On en a la confirmation.
Il y a aussi Betterton qui joue un rôle important. C'est le partenaire de scène de Kynaston.
C'est le directeur du théâtre dans lequel il joue. Il y a d'ailleurs une relation sociale extrêmement tendue entre les deux personnages, qui est quelque chose qui nous amuse beaucoup parce que il doit tenir la baraque. Et quand on parle de précarité, j'arrête pas d'en parler à notre ami Patrick Zart qui joue ce rôle, c'est lui aussi, c'est précaire. C'est-à-dire, faut faire tourner la baraque. C'est pas si simple, quoi. Donc oui, il a existé également.
Et il y a Margaret Hughes, alias Maria, celle par qui tout arrive et qui a existé aussi.
Alors Margaret Hughes a existé, évidemment.
Elle n'était pas forcément la costumière de Kynaston.
Je pense que c'est vraiment la partie qui a été inventée par Jeffrey Hatcher, mais qui est aussi rend les choses particulièrement croustillantes, puisque la trahison, enfin je veux dire l'émergence des femmes vient d'une trahison au plus près de Kynaston, parce qu'ils ont au début du spectacle une relation extrêmement complice.
Ouais.
Oui, l'habilleuse pour un homme qui doit s'habiller en femme est un personnage très important. Elle lui tend la perruque, elle lui...
Elle fait tout, elle l'attache, elle le lasse, et puis elle est tout le temps avec lui. Elle le rassure aussi, parce qu'il se pose la question dès le début. Hein, il se pose la question de est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est bon ? Et elle le rassure tout le temps, donc ils ont un rapport très étroit.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à l'écoute de Radio Scénique. Aujourd'hui, on parle de la place des femmes sur scène, en l'occurrence avec Stéphane Cotin et Vincent Eden. Nous parlons de Belle de Seine.
Comme les princes travestis, je m'habille de confettis. De confettis. De loin mes contours sont précis, de près s'estompe le tableau. Je suis le masque et la peau. Suis-je Pierrot ou Colombie? Suis-je Colombine ou Pierrot? L'incertitude qui me mine, je m'en moque dans les bistrots. Chante un peu faux sous ma vivacité latine. Je cache un cœur presque mélo, presque mélo. Toujours les miroirs m'ont trahi comme les princes travestis. Travestis. s'éteignait en pluie, les rires sous les dominos. J'étais le masque et la peau. Suis-je Pierrot, Colombine? Suis-je Colombine ou Pierrot? Mon cœur est pur comme l'hermine, mais mon corps, il faut ce qu'il faut. J'ai rêvé d'amour platonique dans des poèmes sans défaut, et j'en ai ri d'un air critique en les salissant de gros mots, de gros mots. Toujours vêtu de confettis, sans savoir jamais qui je suis. Qui je suis? Mon visage reste imprécis, et sous les cyprès du jardin, un masque est mort ce matin.
Radio Scénique par Éric Dautaire. Le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique qui reçoit aujourd'hui dans cette première partie le metteur en scène Stéphane Cotin et Vincent Eden, l'interprète, allez, on va dire principal de Belle de Seine, actuellement présenté au Gémeaux Parisien, un beau théâtre du côté de Ménilmontant et qui vient de réouvrir après 4 ans de fermeture. On l'a dit tout à l'heure, Belle de Seine se déroule en Angleterre en 1661, l'année qui voit se rouvrir les salles de spectacle après 18 ans de fermeture puritaine. Les femmes vont-elles enfin pouvoir revenir sur scène? C'est toute l'intrigue de cette belle pièce historique. Alors, petit examen en 2 minutes du statut de la femme sur scène au travers des âges. Dans le théâtre antique, les comédiens étaient exclusivement des hommes. Les rôles féminins étaient donc tenus par des hommes. Et ça n'est que grâce au masque qu'on pouvait reconnaître immédiatement le type de personnage. La comédienne, elle, n'arrive vraiment sur scène qu'à partir du XVIe siècle, d'abord en Italie dans les mimes, puis dans la Commedia dell'arte. À la même époque, le théâtre élisabétain, on l'a dit, continue de mettre en scène uniquement les hommes. Les rôles féminins des pièces de Shakespeare sont donc très logiquement joués par des hommes jusqu'en 1660, date de la pièce dont nous parlons aujourd'hui. Retour des femmes au kabuki fin du 19e. Il faut dire que le kabuki, qui était né au 17e, d'une femme, Izumo no Okuni, avait banni assez rapidement les femmes de la scène pour cause de prostitution. Alors, les femmes, est-ce qu'elles peuvent jouer des rôles masculins? Ben oui. À l'inverse, oui, au XIXe siècle, on confie des femmes aux femmes des rôles d'adolescents et d'amoureux passionnés. Des comédiennes célèbres comme Sarah Bernhardt, oui, la grande Sarah Bernhardt, se sont emparées de grands rôles masculins. Elle disait « Je ne préfère pas les rôles d'hommes, mais les cerveaux d'hommes. Les rôles d'hommes sont en général plus intellectuels que les rôles de femmes. Voilà le secret de mon amour. Il n'est pas de caractère féminin qui ait ouvert un champ aussi large pour les recherches des sensations et des douleurs humaines que l'a fait celui d'Hamlet. » C'était une toute autre époque. Alors, plus près de nous, les femmes qui jouent des hommes. Ben oui, il y en a eu. C'est Denis Podalydès qui met en scène Guillaume Gallienne en Lucrèce et inversement, qui met Suliane Brahim en scène dans le rôle de Gennaro. C'était en 2014 et c'était Lucrèce Borgia. Voilà pour ce tout petit minuscule panorama des hommes et des femmes sur scène. Qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent Eden, vous qui jouez dans Belle de Seine, cet homme qui va être perdu parce qu'il n'aura bientôt plus le droit de jouer des rôles de femmes?
Ouais, ça m'inspire le manque de liberté dans tout ça. Ça m'inspire les règles, ça m'inspire les obligations, ça m'inspire les modes. Et donc, il faut pouvoir répondre à tout ça et en même temps ne pas s'y perdre, surnager, d'où la précarité dont on parlait tout à l'heure, toujours.
Oui, mais en même temps, on le voit avec cette troupe-là, on le voit aussi avec la troupe de Molière. C'est un théâtre qui est un théâtre royal.
Oui, tout à fait.
Charles II, c'est lui qui dicte ce qu'on a le droit de représenter ou pas sur scène. Donc ce manque de liberté, est-ce qu'il n'est pas inhérent au statut du théâtre à l'époque ?
Totalement. On parle beaucoup du mécénat dedans. Il y a le personnage dont on n'a pas parlé encore, de Sir Charles Sedley, qui va accompagner la première comédienne, qui va lui-même lui imposer des choses, de se faire peindre les seins nus, de jouer dans tel ou tel théâtre, de jouer tel rôle. Donc il y a toujours cette espèce de... Oui, je trouve, de manque de liberté. Alors,
De tension entre l'artiste, oui, Stéphane Cotter, et celui qui le finance, entre l'artiste et le pouvoir politique. Ça fait partie des choses qui nous ont vraiment intéressés dans la pièce. Alors, c'est vraiment cette ligne de tension qu'on retrouve à toutes les époques.
Et qu'on retrouve maintenant, qui perdure.
Alors, toute cette galerie de personnages, on a cité évidemment Kynaston, on a cité Buckingham, que vous interprétez tous les deux. Moi, je voudrais revenir sur le rôle de Nell Gwyn, qui est cette espèce de madame sans gêne au sein de la cour. Elle dit son fait tout haut au roi Charles II, qui est fou d'elle. Et elle a un pouvoir qui est inversement proportionnel à son manque d'entre-gens. Parce que est-ce que c'est une femme du peuple ? C'est une ancienne prostituée,
et elle est donc l'amante du roi, et elle va se servir de son pouvoir de séduction, qui est un vrai pouvoir qu'ont les femmes à l'époque. Et donc elle se sert de ça, et depuis l'ombre, elle va diriger l'histoire avec un grand H.
Pour moi, c'est ce qui me passionne vraiment dans le personnage, c'est-à-dire que elle vient du caniveau, c'est celle qui a été la plus précaire peut-être de tous. Et elle se sert de ses attributs pour dépasser une forme de patriarcat total à l'époque, et pour utiliser ses armes, et elle devient, déjà à l'époque, une femme puissante, très puissante, puisque ça vient d'elle, hein, tous ces changements-là. Elle tient le roi, et d'ailleurs, dans la vraie vie, il ne la quittera jamais, il lui fera 3 enfants, il lui achètera un théâtre, et je trouve que cet itinéraire-là, il faut savoir qu'elle avait 13 ans, hein, la gamine, c'est quand même particulier.
Autre époque.
Mais... il se trouve qu'elle a fait son chemin. Et moi, c'est vraiment en cela que le personnage me passionne.
Alors, la figure de la prostituée, c'est intéressant qu'on en parle. Donc, prostituée montée en grade au sein de la cour, mais assimilation du comédien à la prostitution, parce que c'est pour ça que le théâtre avait été interdit par Cromwell, c'est parce qu'on estimait que c'était un art de prostituée, que les prostituées étaient montées sur scène, de la même manière qu'on a interdit le kabuki. Or, dans sa chute, Kynaston se retrouve à jouer dans des cabarets où c'est plus lui qui intéresse que ce qu'il joue.
Ouais, il se prostitue d'une certaine façon. Il se vend, ils vont jusqu'à son âme, je pense. Il se perd, en fait. Mais peut-être qu'il a besoin de se perdre. Peut-être qu'il a besoin d'aller aussi bas pour trouver une porte quelque part qui l'amènera ailleurs, parce qu'il doit bouger, il doit aller ailleurs, sinon il sombrera avec ce monde qui se termine.
On l'a dit tout à l'heure, c'est une pièce qui représente une troupe, mais c'est aussi une pièce de troupe. Il y a quelque chose qui est particulièrement jouissif pour le spectateur qu'on est, on va pas le cacher, c'est une pièce qui nous a totalement enthousiasmés, c'est la présence de cette troupe. Alors, il y a la troupe que vous formez, hein, tous les comédiens sur scène, mais la troupe que vous jouez également. Est-ce que c'était quelque chose qui a joué dans le choix de cette pièce ? Parce que cette pièce, vous l'avez choisie, mais vous l'avez tous les deux accompagnée d'une co-adaptatrice.
Agnès Bourri.
Agnès Bourri, vous êtes allé la piocher dans le répertoire et vous avez décidé de l'adapter.
Oui, en fait, la pièce au départ est écrite pour 14 comédiens. Ce qui n'est pas possible dans le théâtre privé aujourd'hui.
Plus la troupe.
Ouais,
plus la troupe. C'était marqué sur la première 14 page. Comédiens. La pièce peut se jouer à 14 comédiens, plus la troupe.
Donc ça, on aboutissait à une vingtaine, trentaine.
On ne veut même pas savoir, voilà. On pleure.
Et non seulement c'est pas possible, je fais une petite parenthèse, non seulement c'est pas possible effectivement dans le théâtre privé du point de vue, finance, mais aussi je pense que ça correspond à une... En tout cas, c'était une théâtralité dont je n'avais pas envie. Véritablement.
Vous, en tant que metteur en scène. Donc, pour revenir sur l'esprit de troupe, c'est quelque chose qui était important de représenter, parce qu'on est dans les coulisses, hein, dès le début.
On est tout le temps à cheval, on est toujours dans les coulisses de quelque chose, et puis en représentation, que ce soit à la cour ou sur scène, on est toujours dans ces deux aspects de la vie. Et je pense qu'en fait, en réduisant le nombre de comédiens sur scène, tu vas le confirmer Stéphane, parce que c'est avec toi qu'on a fini de réduire, on a augmenter le lien indéfectible entre chaque comédien, et du coup, on a renforcé cet esprit de troupe. En fait, en la réduisant, on a créé une entité familiale, presque.
Oui, vraiment, vraiment. Et en plus, comme on a évidemment en coulisses, ça fonce bien. Il y aurait souvent, je me dis toujours qu'il faut que je mette une caméra pour qu'on.
Il y a du changement de costume.
Ah, mais c'est, et puis, c'est pas des petits gilets, hein, c'est du gros costume. Donc, en fait, on s'entraide. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie famille de plateau qui est assez agréable, même plus qu'assez agréable, qui est très, très agréable pour nous. Tous les soirs, on a une vraie complicité. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui nous animent et qui nous donnent envie de faire ça.
Ouais, et puis la joie de se retrouver, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez souvent en théâtre, mais sans joie, il n'y a pas de théâtre.
Et vous dites ça avec un immense sourire.
Mais ouais.
Je parlais d'ambition tout à l'heure. L'ambition, elle est aussi dans les costumes qui sont hallucinants. C'est une pièce en costume, c'est une pièce donc, qui se passe au XVIIe siècle, on l'a dit, en 1660-1661, mais c'est une pièce sur laquelle, bah, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une robe qui manque, pas un costume à jabot. Comment on y arrive quand on n'est pas la Comédie Française?
On y arrive avec une costumière qui s'appelle Shushan Abello Cherpachian, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui arrive à faire des miracles. Alors, on reprend dans des stocks de costumes d'anciens spectacles. On a fait fabriquer plein de choses à Venise. Ça paraît très luxueux comme ça, mais en fait, il y a à Venise un tissu spécialisé avec le carnaval qui fait qu'on peut faire des costumes de manière un peu plus facile qu'à Paris. Et puis après, c'est le talent de notre costumière, Shushan, qui arrive avec des choses qu'on récupère, des choses qu'on nous donne, des éléments d'anciens spectacles, à faire une grande cohérence et quelque chose de très flamboyant. Et pour moi, c'était très important parce que dans le corps du texte, il y a un dialogue qui n'est pas du tout ampoulé, qui est très concret, qui est même assez contemporain. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le rapport entre cette forme de dialogue-là, cette forme littéraire-là, et les costumes, c'est-à-dire, je disais souvent à mes camarades, on ne doit pas jouer la perruque, on doit être très concret, et le costume vient en addition.
Vous habitez les costumes. C'est clair, c'est que si on prend votre exemple, Vincent Hayden, qui est le plus chargé en costume,
Oui. Ils sont plus voyants, ceux de Vincent.
vous devez habiter ce costume, c'est-à-dire vous l'approprier, puisque vous êtes...
C'est un prolongement du corps. C'est-à-dire que moi-même, parfois, ça m'arrive, quand on a beaucoup, beaucoup répété pour cette pièce, pendant les répétitions, tout d'un coup, je me disais, c'est fou comme j'ai l'impression que mon corps, en dessous ses habits, n'est plus le même, en fonction d'une Desdémone, en fonction d'une courtisane, en fonction d'une jeune femme déguisée en homme, et puis les moments où il est en Kynaston, où il a ce costume, ce que j'adore. Shushan a mis ce Kynaston homme dans un costume simple, très élégant, mais simple, noir.
Noir.
Et le contraste est formidable. Et le corps qui est dessous, son prolongement n'est plus le même, le corps en est changé, la source en est changée.
Stéphane Cotin, Vincent Hayden sont nos deux invités pour Belle de Scène sur Aligre FM 93.1.
Tell me where we stand.
Radio Scénic par Éric Dotter. Le théâtre sur Aligre FM.
Et le théâtre sur Aligre FM invite aujourd'hui Stéphane Cotin et Vincent Eden, deux des protagonistes de Belle de Seine. On va citer toute la distribution. Avec vous, il y a Patrick Chériguès, Emma Gamet, Sophie Tellier et Patrick Zard. Ouais. Rappelons que c'est une... On peut la qualifier de comédie historique Oui, vous avez l'air sceptique.
Oui, comédie, oui. Dramédie, je ne sais pas comment on pourrait dire.
C'est un peu des deux.
Mais...
Ce qui est très très beau, moi, ce que j'adore dans la pièce, hein, c'est qu'elle elle se fait se croiser de la grivoiserie, de la comédie, avec des thèmes beaucoup plus lourds, avec une vraie tragédie là, de tous ces personnages. Donc c'est une comie-tragédie historico-romantique, voilà.
C'est du théâtre.
C'est du théâtre.
Voilà, absolument, et il se trouve que le personnage interprète une femme. Alors rassurons les spectateurs qui n'auraient pas envie d'assister à la xième pièce sur l'identité, bien que ça en parle aussi. Hein. Ça n'est pas une pièce sur l'identité, c'est une pièce sur l'histoire du théâtre, sur l'histoire d'une portion de l'histoire anglaise, sur la puissance d'une femme, sur... Il y a plein de choses, il y a énormément de choses qui se superposent.
Sur la vie, sur la résilience... Ouais.
Oui, puis sur les heures et malheurs d'un homme qui n'avait pas appris à être un homme.
Mmh, ouais, aussi. Et puis sur l'impermanence, ça nous rappelle aussi. Comme tout est impermanent, rien n'est
fragile.
Et je rajouterais sur l'altérité, parce que l'issue de la pièce fait que Edward Kynaston se trouve comme comédien homme en se frottant à en se heurtant, en travaillant avec cette comédienne femme. Et c'est une très belle leçon sur l'altérité, je trouve.
Alors, j'ai posé une question de première année débutant animateur radio. Est-ce que pour vous, comme le disait Louis Jouvet, jouer, c'est être hors de soi?
Ah, non. Ah, hors de soi.
Vous l'êtes d'une certaine manière.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est être au plus profond de soi-même, mais je crois profondément que ce qui est dedans est dehors et inversement. Donc finalement, être au plus profond de soi-même, c'est peut-être quelque part être hors de soi aussi.
Oui.
Ah, j'aurais du mal à dire mieux que ça. Moi, je ne crois pas hors de soi. Effectivement, j'ai tellement plein de... En soi.
Faites de grands gestes en même temps.
Ouais, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai un peu la même sensation que Vincent, et c'est quelque chose, ou plutôt
Eden,
que Vincent Eden, que c'est quelque chose qui nous porte, nous gonfle. Hors de soi, ça voudrait dire ne plus être. Enfin, en tout cas, moi, ça m'évoque de plus être en contact avec soi-même, et j'ai l'impression qu'il faut l'être au contraire, de manière terriblement profonde.
Stéphane Cotin, vous êtes le metteur en scène de Belle de Seine, mais vous êtes aussi un des comédiens. Comment est-ce qu'on arrive à jouer sans regarder ses petits camarades et sans se dire oh là, il n'est pas là, il n'est pas dans la lumière que j'avais prévue?
Alors, je sais que c'est une question qu'on me pose très très souvent. Moi, en fait, la scène, le moment où je joue, est un tel plaisir que j'ai il y a longtemps refusé de me le gâcher en me contrariant parce que quelque chose n'est pas tout à fait à sa place. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas attentif à ça. Il se trouve qu'on a maintenant des technologies qui... Moi, je filme le spectacle tous les jours, je regarde quand j'ai besoin de le regarder. Mais quand je suis sur le plateau, Vincent peut vous le dire, je profite à fond de ce moment-là et je suis à fond avec mes camarades. Maintenant, quand on a un problème, évidemment, j'en ai conscience, mais j'arrive tout à fait à avoir cette schizophrénie. Alors, ça dépend aussi de la troupe, parce qu'il est vrai que là, il y a une confiance mutuelle. J'ai une confiance totale en la troupe. La troupe me fait confiance.
Comment est-ce qu'on constitue une troupe, justement? Quand on est metteur en scène, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question qu'on a déjà posée à d'autres metteurs en scène ici. On recrute, on fait passer des auditions ou
Alors, oui, alors c'est très difficile de le définir. C'est très empirique sur chaque projet, véritablement. Bon, à l'âge qu'on a, sans nous vieillir trop, on commence à connaître le tissu des gens qui nous entourent. On a croisé plein de gens. Il y a des gens avec qui on a envie de travailler, il y a des gens avec qui on n'a pas envie de travailler. Et en fait, il faut pour moi à la fois que ça réponde à mon rêve, à mon fantasme des personnages, et aussi que j'ai envie de passer du temps avec ces gens. Ça peut paraître un peu idiot comme ça, mais je vous assure qu'on n'a pas envie de passer... Enfin, de se compliquer la vie avec des gens avec qui on n'a pas une vibration commune. Donc voilà, ça se passe là en l'occurrence. C'est Vincent qui est à l'origine, la toute origine du projet,
avec
puisque
Agnès,
c'est lui qui,
ouais.
avec Agnès Bourri qui l'a adapté. C'est Agnès Bourri avec qui je travaillais comme acteur qui m'a fait passer le texte. On en a eu envie. J'ai rencontré Vincent, on ne se connaissait pas. Et immédiatement, je me souviens, on était dans un café à Vincennes, j'ai fait « Ah non, mais oui, c'est évidemment lui, ça me va très bien. » Et puis après, bah, j'ai constitué avec des camarades avec qui j'ai joué. J'ai fait passer quelques auditions, mais finalement très peu, puisque tous les gens avec qui qui sont sur le plateau, j'avais joué avec eux avant ou j'avais travaillé avec eux avant.
Ça veut dire, Vincent Eden, que lorsque vous avez trouvé ce texte, vous étiez déjà distribué dans le rôle de Kinaston.
Je m'étais auto-distribué. Oui, en fait, j'ai découvert le film d'abord, et puis en cherchant, j'ai vu que le film venait d'une pièce, donc j'ai commandé la pièce en anglais, et puis on l'a lu avec Agnès, et oui, c'est le personnage et ce qu'il vit, ce qu'il traverse m'avait fasciné et certainement avait résonné pour moi. Donc oui, je me suis auto-distribué. Oui.
Plus alors, que le fait de passer la totalité de la pièce avec des robes de 30 kilos.
C'est pas le meilleur aspect.
Mais
c'est rigolo.
Je tiens à dire quand même que Vincent dit qu'il s'est auto-distribué, mais que quand on s'est rencontrés, il m'a laissé absolument libre.
Ah oui.
Et je me souviens de ça avec beaucoup d'émotion, parce que c'était lui qui était à l'origine du projet, et il ne s'est jamais imposé. Et évidemment, c'était plutôt bon signe.
Ouais, non, parce qu'on parlait de la joie, mais c'est ça, il faut qu'on ait envie, qu'on se désire. Donc je ne vais pas m'imposer à un metteur en scène si son désir est ailleurs. Je préfère qu'il vive son désir et puis la pièce vivra.
Il y avait aussi un aspect physique qui jouait dedans, c'est-à-dire que vous êtes, il n'y a pas d'ambiguïté lorsque vous êtes Desdémone, vous êtes réellement Desdémone. On croit à votre personnage avec la perruque, avec le.
J'ai l'air d'une femme, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Mais je le prends bien.
Je trouve que c'est un compliment de dire qu'on mérite d'être une femme. Mais
oui, tout
donc,
à fait.
Si vous voulez que je vous le dise, je vous le dis. Mais est-ce que ça jouait aussi cet aspect physique
Il faut que ce soit plausible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'un personnage qui fascine le public londonien, le tissu social londonien, il faut que ce soit plausible. Maintenant, ça pourrait être plein de physiques différents. Il est évident que ça aurait été compliqué avec un acteur de 95 kilos. Je veux dire, évidemment. Mais plein de physiques auraient été possibles à partir du moment où on trouve dans ce physique d'homme quelque chose qui est suffisamment ambigu ou suffisamment étrange pour nous donner à penser que cette Desdémone est réelle sur le plateau, quoi.
Vous l'avez compris, Radio Scénique vous enjoint d'aller voir Belle de Seine au Théâtre des Gémeaux Parisiens, un nouveau théâtre, enfin du moins un théâtre qui a réouvert. Vous jouez jusqu'à quand?
Jusqu'au 16 mars.
Minimum.
Mais précipitez-vous tout de même pour aller voir les aventures de, entre autres, de Kynaston, de Charles II, de Nell Gwynn sur la scène des Gémeaux Parisiens. Stéphane Cotin, Vincent Eden, merci.
Merci, merci.
Chez le garçon.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Blandine Bonelli, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous poursuivons notre partenariat avec les EAT, les écrivains et écrivaines associés du théâtre. Et votre texte, Balek, a été lauréat de la sélection 2023 des EAT catégorie tout public. Alors, pour le dire brièvement, Balek, ça met en scène un dialogue entre la grande fille, la petite fille et des pensées un peu surplombantes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et plus globalement, donc c'est une femme d'une quarantaine d'années en fait, qui refait une traversée dans son adolescence et dans la petite fille qu'elle était. D'abord de manière un peu dissonante, puisqu'elle raconte à la troisième personne la vie de cette adolescente qui est l'adolescente que tout le monde a un peu eu dans sa classe, c'est-à-dire la fille qu'on dit fille facile parce qu'elle couche avec tout le monde et puis qu'elle parle pas trop.
Elle a un surnom, tout le monde l'appelle ?
Sale pute.
Voilà.
Voilà, et donc elle fait parler cette grande, elle fait parler cette petite, et puis on se rend compte qu'en réalité cette femme, elle nous parle d'elle et de comment est-ce qu'elle a son rapport aux hommes et à la sexualité a tué sa vitalité, son désir intérieur en réalité.
Ah, la manière dont elle s'exprime parlant d'elle-même, je le disais en introduction, elle n'a pas de grande estime pour elle.
Non, elle n'a pas de grande estime, mais c'est vrai que c'est à la toute dernière ligne de la pièce que sans doute elle-même, cette femme qui raconte, se rend compte qu'en fait, c'est d'elle qu'elle parle depuis le début.
À l'origine, vous me l'avez dit, ce texte était un monologue que vous avez transformé, oui. Que vous avez transformé en pièce de théâtre, c'est ça ?
C'est ça, à l'origine, c'était vraiment...
Alors, je vais juste demander à la technique, le micro de Blandine est un peu faible. Voilà, si on pouvait vous remettre un tout petit peu de volume, ce serait gentil, merci.
Oui, à l'origine, c'était vraiment une... Enfin, je me suis jetée dans l'écriture sans savoir vraiment où j'allais et en suivant le fil de mes pensées. C'est pour ça que maintenant, il y a un personnage qui, effectivement, sont les pensées. Et puis, il y a qui est un personnage aussi, d'ailleurs, dans la pièce, qui est la rivière. Et voilà, c'est vraiment un flot de pensées qui partait. Et que j'ai ensuite structuré en me rendant compte que c'était pas... Au début, je pensais que j'écrivais une nouvelle, où je m'étais même imaginé que j'étais en train d'écrire un roman, mon premier roman, mais pas du tout. C'était parler, et en fait, c'était du théâtre. Donc effectivement, après, je l'ai restructuré en dissociant les personnages, et ça augmente du fait la dissonance un peu cognitive de cette femme qui a pas encore réellement trouvé sa place et sa féminité.
Alors parlons un petit peu de votre curriculum vitae, de qui vous êtes. Vous êtes titulaire d'un diplôme de droit privé et vous travaillez dans la fonction publique territoriale, c'est important, hein, ouais. Depuis 2004, dans un service de protection à l'enfance. Ça vous amène à vous sentir légitime pour parler de la jeunesse, de ce moment où les choses éclosent plus ou moins confortablement ?
Bah alors, j'ai démarré effectivement, oui, j'ai travaillé de nombreuses années dans les services de l'aide sociale à l'enfance. J'ai écrit une pièce d'ailleurs sur ce sujet qui s'appelle Défaillance et qui tourne, j'en profite pour le dire, parce qu'on va reprendre à Paris en avril au local des autrices. Ensuite, je suis partie de la protection de l'enfance. Maintenant, je fais plus du droit droit des collectivités territoriales et ensuite je travaille avec la direction de la culture de la collectivité dans laquelle je suis. En tous les cas, ce qui m'a amené à écrire ce texte, c'est aussi que j'ai trois adolescents et que c'était l'année où ils rentraient au collège et que moi ça m'a... Enfin, je me suis souvenu d'un rapport et de la dureté qu'il pouvait y avoir dans ces années-là et je pense que c'est ça qui a déclenché vraiment... cette envie d'écrire sur ce sujet. Ouais.
Alors cette adolescente, elle dialogue avec elle, petite fille. Il y a grande fille et petite fille. Et petite fille vient un petit peu modérer, adoucir ce discours qu'elle trouve très violent. Finalement, elle, petite fille, c'est un peu le lecteur qu'on est.
Oui, en tout cas, c'est la joie et c'est la vitalité, justement, qu'on a quand on démarre dans la vie. Et la petite fille, effectivement, n'arrête pas de lui dire « Mais moi, ma vie, je ne veux pas la rater. Donc, s'il te plaît, lâche pas, quoi. » Et c'est vrai qu'elle essaye tout le long de la tenir et de la ramener, et de la ramener à la vie.
Quel est le rapport qu'elle a à son corps ? Parce que ça parle beaucoup de son corps et du mépris qu'a un certain Julien pour elle. Il lui dit la phrase, il y a une phrase qu'on finit par détester, qui est « à un de ces quatre ».
C'est ça. Elle est en fait cette jeune adolescente. Elle a beaucoup de difficultés à être dans un rapport avec l'autre, avec les autres. Et la seule chose, le seul rapport qu'elle arrive à avoir, peut-être sans doute parce qu'elle pense que c'est comme ça qu'elle doit se comporter, c'est de coucher avec tous les garçons du village qui ont envie. mais en s'interdisant d'accepter d'avoir des sentiments ou d'être amoureuse, parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le droit de l'être.
Manque de chance, elle a un petit pincement avec ce Julien, qui à chaque fois qu'il a fait sa petite affaire, comme disait ma grand-mère, part en disant à un de ses quatre.
Il part en disant à un de ses quatre, et puis jusqu'au jour où il lui parle aussi beaucoup, il vient la voir, et il lui parle aussi beaucoup d'une jeune femme dont lui est amoureux, et donc elle l'écoute, et puis elle est sa confidente, et puis le jour où il embrasse Elodie, et là on est qu'au milieu du texte, qu'au milieu de la pièce, elle dit, ok, je me tue. Et donc il y a la pulsion adolescente et le suicide, et bam, elle se tue, et ce qui se passe ensuite, c'est qu'elle... en fait, sa vie continue comme si, à tel point quasiment, si elle n'a pas été déjà morte depuis le début de sa vie.
Alors, Blandine Bonelli, oui. C'est le moment où on va faire écouter aux auditeurs un extrait de votre texte que vous allez lire vous-même. On se situe où, là, dans ce que vous avez choisi ?
Alors, on se situe juste avant, la grande a déjà rencontré cette petite avec qui elle dialogue, elle lui parle de Julien, et on se situe juste avant qu'il y ait ce faux point d'acmé, qui est le moment où la grande va sauter dans la rivière.
Donc, Balek par Blandine Bonelli au micro d'Aligre FM.
La petite avait 10 ans. La grande se rappelait, quand elle avait cet âge-là, que sa mère lui coupait les cheveux très courts parce que c'est plus pratique. Sauf que les cheveux courts, ça faisait surtout que tous les autres enfants de l'école venaient lui demander si elle était une fille ou un garçon. Elle leur répondait au début. Elle était une fille et voilà, seulement avec ses cheveux courts, son prénom à la con et son air de parler à personne, les autres se posaient des questions, forcément. Elle avait 16 ans, et maintenant, avec la poitrine qu'elle avait, personne ne doutait plus de ce qu'elle était. Elle était passée de « t'es une fille ou un garçon » à « sale pute ». En 6 ans, balèze. De toute façon, le jour où ses seins avaient commencé à pousser, elle avait très vite compris que sa vie sociale allait devenir encore plus compliquée. Ils avaient poussé d'un coup, comme si d'un coup, ils avaient fallu qu'ils disent « c'est une fille, hein, vous voyez pas, on est une fille », comme s'ils n'en pouvaient plus. Il fallait qu'ils respirent, sans doute. Au début, elle les avait trouvés encombrants, impossibles à faire rentrer dans un t-shirt, et puis elle s'était mise à bien les aimer. C'était doux et rassurant de les toucher, de les regarder quand elle était allongée, il l'accompagnait. Julien aimait bien les embrasser et poser sa tête sur eux. Ça, c'était cool. C'était trop cool. Elle faisait comme si de rien, mais en vrai, c'était trop bien, Julien, sur ses seins. C'était des moments où ils étaient tous les deux sans rien dire. À quoi ils pensaient, elle ne savait pas, mais il avait l'air tranquille, elle aimait bien. Une fois, elle s'était même endormie. Elle avait adoré parce que, du coup, il était resté plus longtemps avec elle. Elle s'était figée, n'avait pas osé bouger, éviter qu'il se réveille et s'en aille. Ça n'avait pas loupé. Il s'était réveillé au bout de 12 petites minutes et il avait grogné « Merde, je me suis endormie ». Il avait mis son fut et « Un de ses quatre ». Elle lui en avait voulu plusieurs jours. Ni merci ni merde, à un de ces quatre, et démerde-toi avec ça. N'importe quoi, lui. Comme s'il avait autre chose à faire, c'était samedi, de toute façon. Et hop, il était reparti, et hop, la rage du fond de la cage s'était pointée. Même que ce jour-là, la rage était montée d'un cran. Ça lui avait fait peur. À ce rythme-là, elle n'allait pas tarder à exploser, elle s'était dit.
Blandine Bonelli, voilà, le micro est allumé. Blandine Bonelli, c'est un texte que vous allez bientôt produire sur scène ?
C'est ça, donc c'est un texte qui... alors, grâce d'ailleurs à la sélection qui a été faite par les EAT, a été mis en maquette au Théâtre de l'Opprimé il y a un an par Maxime Lambert et des apprentis de l'ESCA, l'école du studio d'Anières. Et donc, j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour le travail qu'ils ont fait. Et là, effectivement, ils vont le mettre en scène. Et la première de la création, c'est au Festival Trait d'Union, au LDUND. Les 25 et 26 janvier prochains.
Pour préciser, là, vous avez adjoint la voix de la petite fille à la grande fille. C'est un dialogue, normalement. Donc, vous avez restitué à ce texte sa nature d'origine, sa version originale. Ouais. Ce rapport avec le corps, il est manifeste. Là, on voit l'éclosion de l'adolescence et du corps de l'adolescente.
Oui, c'est ça. Et de qu'est-ce qu'on en fait, parce que ça vient d'un coup et ça bouge d'un coup. Et comment ça bouge aussi la place des filles et des femmes dans la société. Ça bouge le regard qu'on va porter sur elles. Du coup, le regard qu'elles-mêmes vont se porter. Donc oui, c'est aussi tout ça que je voulais montrer, traverser. Ouais.
Votre texte montre une adolescente jeune, trop jeune pour avoir des relations sexuelles.
C'est ça, avec... L'infirmière du village, d'ailleurs, qui intervient aussi, qui lui dit « c'est pas normal, en fait, tout ce que tu fais. À 13 ans, on ne fait pas ça. Mais elle est persuadée que ça ne l'impacte pas, en fait. Et ça n'est que certainement, une fois cet adulte qu'elle est devenue et qu'il le raconte, c'est certainement à ce moment-là, en le racontant, qu'elle commence à peine à réaliser comment ça l'a impacté.
Je vais vous poser une question que j'ai déjà posée à d'autres membres des comités de lecture des EAT, hein, des écrivaines, écrivains associés du théâtre. Précisons-le, vous avez eu le prix avant d'être membre du conseil d'administration et vous m'avez dit que c'est une sélection qui se fait de manière anonyme. On ne sait pas qui a écrit le texte qu'on lit.
Oui, c'est ça. Le comité de lecture des EAT, ça fonctionne sur l'anonymat, effectivement.
Votre texte incarne la féminité, les difficultés de la féminité, et également les difficultés de l'adolescence. Est-ce que c'est un thème récurrent dans ce que vous pouvez recevoir comme texte? Je crois qu'il y en a eu l'année dernière environ 300 textes dans la sélection adulte.
Le thème oui, il y a plusieurs thèmes. Effectivement, il y a beaucoup de textes qui parlent de l'intériorité féminine et de comment on s'en sort avec ce qu'on est, oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que le regard de Maxime Lambert, qui le met en scène et qui a 20 ans de moins que moi, pour lui, ce texte, c'est comment ça dénonce la culture du viol, en fait. Il l'aborde frontalement comme ça, en fait.
Comment est-ce qu'on arrive à faire un texte qui parle de ça sans faire soit un pamphlet ou un tract militant?
Alors moi, quand je commence à écrire, je ne sais jamais où je vais aller, très honnêtement. Donc comme la grande, elle se jette dans la rivière, moi je vais me jeter dans l'écriture et puis je me laisse emporter par le flot. Donc généralement, moi je réfléchis après sur ce que j'ai écrit. Donc c'est peut-être ça la réponse. Mais j'anticipe pas toute cette construction.
Donc vous allez jouer la grande hein, bientôt. On va préciser les dates tout à l'heure. Comment est-ce que vous envisagez ce personnage? Parce que là, vous êtes obligé de séparer l'autrice de l'actrice et même vous allez être dans les mains d'une ou d'un metteur en scène.
Oui. Alors, pour préciser, en fait, aux premières dates à Ivry, moi, je ne serai pas sur scène et je vais effectivement reprendre le rôle de la femme qui raconte l'histoire aux représentations du Lavoir moderne parisien en février. Comme j'ai deux autres textes précédents où, effectivement, je joue dedans, mais ce sont des metteurs en scène qui les montent. Et moi, ça me va très bien parce que, justement, je suis à la place, comme vous disiez tout à l'heure, hein, de comédienne et je lâche.
Oui, comme disait Stéphane Cotin à qui vous parlez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On constate, sans le vouloir, dans la programmation d'Aligre, qu'entre Edwige and the Angry Inch, que nous avions programmé il y a de ça quelques temps, Belle de Seine et votre pièce, ça parle de féminité, ça parle d'identité. Dieu sait qu'ici, on a envie de parler avant tout de théâtre, avant de parler de quelconque thématique, mais on est obligé de se rendre compte que ça pointe de tous les côtés. Qu'est-ce qui se passe dans le théâtre? Là, on a affaire à une pièce, Belle de Seine, c'est une pièce des années 2000, la vôtre est de 2023. Qu'est-ce qui se passe?
Je pense que c'est ce qui se passe aussi actuellement dans la société, c'est-à-dire qu'on est en train de bien décoller la tapisserie et de faire de remettre bien aussi la...
Alors attendez, vous n'avez pas le micro ouvert, Stéphane Cotin. Alors, vous vouliez dire quelque chose?
Non, je dis, on ouvre tous les couvercles et c'est vrai que c'est quand même essentiel que les thèmes qui traversent la société arrivent sur scène. Enfin, on est quand même vraiment là pour ça, me semble-t-il.
C'est ça.
Et pour purger tout cela.
Pour moi, le théâtre, c'est vraiment comment... Déjà, c'est pour... vraiment déplier le réel, enfin, c'est ça qui m'intéresse dans le théâtre, et pour dire comment le politique impacte l'intime.
Blandine Bonelli, merci, vous nous lisiez, vous nous avez fait découvrir votre texte qui s'appelle Balek. Fin de cette 6e édition de Radio Scénique, votre nouveau magazine sur la création scénique, à l'antenne d'Aligre FM 93.1. Merci à nos invités qui nous ont fait le plaisir de venir dans nos studios. Stéphane Cotin est le metteur en scène de Belle de Seine et Vincent Eden, l'un des comédiens de Belle de Seine, hein, actuellement présenté au Théâtre des Gémeaux Parisiens. Allez-y, c'est une chaude recommandation. Vous découvrirez aussi ce théâtre tout neuf puisque les Gémeaux Parisiens ont réouvert en septembre dernier après 4 ans de fermeture de la salle. Blandine Bonelli nous a présenté quant à elle Balek, son texte qui a obtenu en 2023 le prix des EAT catégorie tout public. Ce texte sera présenté les 25 et 26 janvier au théâtre El Duende à Ivry, puis du 19 au 23 février au Lavoir parisien. Quant à Belle de Seine, vous pouvez y aller tranquillement, vous avez jusqu'au mois de mars, mais précipitez-vous quand même. Toutes ces infos, comme le programme que vous avez écouté, seront très prochainement disponibles en podcast sur le site aligrefm.org. Merci à mon équipe de ce jour. Pierre Demkoff a assuré la programmation musicale et m'a aidé à la préparation de cette émission. Quant à Kumba Quest, elle était aujourd'hui à la technique et j'avais demandé au technicien du jour de me donner son prénom et son nom parce que j'ai oublié de le noter. C'était sa première aujourd'hui, il s'en est très bien débrouillé. Alors qui dois-je remercier ? Alors c'était Damien qui était à la technique avec Kumba et Enrico. Merci à tous les trois. Nous nous retrouverons le 27 janvier pour une nouvelle édition de Radio Scénique.
Comme un garçon, j'ai les cheveux longs comme un garçon, je porte un blouson, je file des nions et je suis patron comme un garçon, comme un garçon. Moi je suis têtu et bien souvent moi je distribue des bons coups de boule, faut faire attention comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Et quand tu es loin de moi, je ne suis qu'une toute petite fille perdue quand tu n'es pas là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. Je suis menteur à 200 à l'heure. Comme un garçon, comme un garçon.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.